Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 15 novembre 2024. Les Gabonais sont appelés à voter demain pour ou contre un projet de nouvelle constitution.
Cette constitution va instaurer un régime présidentiel sui generis gabonais en tenant compte de nos réalités sociologiques. Oui, cette constitution sera une constitution démocratique.
Nous joindrons dans un instant notre correspondant à Libreville. Au Sénégal, dernier jour de campagne avant les élections législatives de dimanche. Au Bénin, l'ancien directeur de la police, le général Louis-Philippe Ndéignan, a été arrêté pour incitation à la rébellion. Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping assistent aujourd'hui à Lima au premier jour d'un sommet des dirigeants de la région Asie-Pacifique avant un tête-à-tête demain samedi. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute de cours. Pour l'instant, le journal. Direction le Gabon, les électeurs sont invités aux urnes demain samedi pour se prononcer sur le nouveau projet de constitution. La campagne électorale s'achève ce soir à minuit sur fond de polémique autour d'un texte censé restaurer les institutions du pays. Il s'agit d'une étape importante pour un retour au pouvoir civil promis par les militaires après le coup d'État d'août 2023. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze.
Plus que quelques heures avant minuit, et ce sera tout pour cette campagne en vue de l'adoption ou non du projet de nouvelle constitution du Gabon. Pendant 10 jours, les meetings des partisans du oui ont dominé l'espace public. Les opposants au projet de loi fondamentale ont peiné à se faire entendre. Les deux camps seront départagés ce samedi par plus de 800 000 électeurs dans quelques 2800 bureaux de vote du pays. Le texte soumis au vote consacre entre autres un régime présidentiel fort sans premier ministre et l'impossibilité d'une succession dynastique du pouvoir. Il ne reste plus que quelques heures pour convaincre les indécis. Écoutez respectivement Alain-Claude Bilibizé, ancien Premier ministre et partisan du non, et Jean-François Toutouméman, dignitaire de la République, partisan du oui.
Est-ce que le projet qu'on se donne, c'est un roi qu'on veut installer? Non. Est-ce que le projet qu'on se donne, c'est exclure? Non. Il ne s'agit pas ici de dire nous sommes contre un tel ou contre un tel. Notre combat ici, c'est qu'il nous faut une constitution qui rassemble le Gabon.
Cette constitution va instaurer un régime présidentiel sui generis gabonais en tenant compte de nos réalités sociologiques. Oui, cette constitution sera une constitution démocratique.
Ce scrutin qui marque le premier test de transparence et de démocratie au Gabon est supervisé par une mission des Nations Unies. Libreville, Ismaël Obiang-Nze pour VOA Afrique.
Les Sénégalais se rendent aux urnes ce dimanche pour des élections législatives anticipées. Ils doivent élire les 165 membres de l'Assemblée nationale. Et le parti du Premier ministre Ousmane Sonko cherche à obtenir la majorité des sièges pour réaliser ses promesses de rupture. Éric Manirakiza.
Le nouveau président et son gouvernement espèrent obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour mener à bien leur programme de réforme promise. Dans les rues de Dakar, un électeur comme Cheikh Diagne a confié que les priorités des citoyens restaient la baisse du coût de la vie et l'accès à des services essentiels comme l'eau et l'électricité. Ousmane Sonko, le Premier ministre, a adopté un ton ferme, affirmant que ses partisans ne vont plus tolérer des attaques répétées. Selon Babacar Ndiaye, directeur de recherche au think tank Wati, les Sénégalais ont souvent soutenu le président lors des législatives, ce qui pourrait jouer en faveur de PASTEF, malgré l'alliance surprise de l'opposition. Les résultats de ce scrutin seront surveillés de près et détermineront si le gouvernement parviendra à relever les défis actuels et à apaiser les tensions sociales.
Au Bénin, l'ex-directeur général de la police a été arrêté et placé en détention provisoire en attendant son procès. Le général Louis-Philippe Ndéignan est accusé d'incitation à la rébellion et de harcèlement par voie électronique après des critiques multiples contre le régime de Patrice Talon. Les détails avec Nani Talani.
Le général Louis-Philippe Ndéignan a été effectivement mis sous mandat de dépôt après sa journée d'audition dans les locaux de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ont confirmé ses proches ce vendredi. Il a été interpellé mercredi soir à son domicile pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique, précisent des sources judiciaires. La date de son procès a été fixée au 16 décembre. Ces derniers mois, il avait multiplié les prises de parole sur les réseaux sociaux pour critiquer le régime Talon. Il avait aussi affirmé être l'objet de menaces et craindre une arrestation. L'ancien directeur général de la police, très influent sous la présidence de Thomas Boni Yayi, a été nommé directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur en 2015. Mais il a été limogé à l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016. Pendant son service, il avait géré plusieurs dossiers impliquant Patrice Talon, qui n'était alors qu'un simple homme d'affaires, en conflit notoire avec le président de l'époque, Thomas Boni Yayi.
Au Mali, l'ONU rétrocède le dernier camp de l'ex-mission de Casque Bleu. Le drapeau des Nations Unies a été abaissé sur le camp de 37 hectares qui a servi de principale base opérationnelle de la MINUSMA et accueilli son quartier général. Le camp a joué un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de la MINUSMA, a dit le secrétaire général adjoint de l'ONU, Atul Karé, lors de la cérémonie. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a de nouveau formulé les griefs du gouvernement contre la mission déployée à partir de 2013 face aux rébellions qui menaçaient la stabilité de ce pays. Le spécialiste français de l'uranium, Orano, a déclaré aujourd'hui suspendre les dépenses liées aux activités d'extraction de sa filiale au Niger dans un contexte de tension avec la junte au pouvoir dans ce pays sahélien. Orano a justifié sa décision de suspendre les dépenses d'extraction de la Somaille en expliquant vouloir orienter le reste de trésorerie disponible vers le maintien du paiement des salaires et des fonctions vitales du site industriel aussi longtemps que possible. Le pouvoir nigérien a maintes fois répété vouloir revoir en profondeur le système d'exploitation des matières premières sur son sol par des compagnies étrangères. Il se tourne par ailleurs vers de nouveaux partenaires comme la Russie et l'Iran. Et puis la Centrafrique va pouvoir de nouveau exporter ses diamants après la levée totale aujourd'hui de l'embargo qui frappait le pays depuis 2013, ont annoncé les autorités à Bangui, réunies en session plénière à Dubaï. Le processus de Kimberley, l'organisme de régulation du commerce mondial du diamant, a décidé de la levée totale de la sanction, a annoncé le ministère centrafricain des Mines et de la Géologie sur sa page Facebook officielle.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping assistent aujourd'hui à Lima au Pérou au premier jour d'un sommet des dirigeants de la région Asie-Pacifique avant une entrevue demain. Jacques Aristide.
Les deux dirigeants prennent part à la grand-messe de l'APEC, coopération économique pour l'Asie-Pacifique, qui regroupe 21 pays réalisant 60% du PIB mondial. Ils sont arrivés dans la capitale péruvienne hier, en même temps que d'autres chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit de la troisième rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Tous deux se rendront ensuite au G20 au Brésil. Leur tête-à-tête demain est jugé crucial, tant les relations entre les deux pays ont été tendues ces dernières années en raison de différends commerciaux, mais aussi du statut de Taïwan, de questions relatives aux droits humains et de la rivalité technologique. Le président démocrate Biden laissera les commandes en janvier à Donald Trump, élu 47e président des États-Unis. Pendant sa campagne, le républicain a promis de protéger l'industrie américaine. Au lendemain de la réélection de M. Trump le 5 novembre, le président chinois Xi a appelé à une relation sino-américaine stable, saine et durable, conforme aux intérêts communs des deux pays.
Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est entretenu ce vendredi au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine et lui a demandé de démontrer sa volonté de négocier une paix juste et durable en Ukraine, a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand. Le président russe a répondu dans un communiqué résumant les propos de Vladimir Poutine lors de cet entretien qu'un accord de paix avec l'Ukraine devrait tenir compte de nouvelles réalités territoriales appelant ainsi à des concessions de Kiev sur les régions actuellement occupées par l'armée russe. L'Ukraine a dénoncé l'appel de Scholz Poutine comme une tentative d'apaisement envers Moscou. Le Liban étudie une proposition américaine de cesser le feu, ont indiqué aujourd'hui deux responsables gouvernementaux libanais, près de deux mois après le début de la guerre entre l'armée et le Hezbollah. L'ambassadrice américaine à Beyrouth, Lisa Johnson, avait présenté au Premier ministre et au chef du Parlement un plan en 13 points en cas d'accord sur cette proposition américaine. Il y aura un cessez-le-feu de 60 jours, a précisé ce responsable, soulignant qu'Israël n'y avait pas encore apporté de réponse. Ce texte est la première proposition écrite de Washington depuis plusieurs semaines pour faire cesser les affrontements entre Israël et la milice chiite pro-iranienne. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Afrique du Sud, les spaza shops, épiceries informelles principalement tenues par des étrangers, sont au cœur d'une polémique après la mort de 23 enfants intoxiqués par des chips contaminés par des pesticides. Le lien direct avec ces magasins n'a pas été établi, mais les autorités et les habitants accusent les propriétaires étrangers, aggravant les tensions xénophobes. Des raids se sont intensifiés près de Johannesburg, où des épiceries informelles ont été fermées pour vente de produits périmés. Au Nigeria, la compagnie pétrolière nationale a augmenté sa production de pétrole à 1,8 million de barils par jour, contre 1,3 million de barils en octobre, avec l'objectif d'atteindre 2 millions de barils par jour d'ici fin 2024. La hausse inclut les condensats, portant la production totale à environ 1,55 million de barils par jour. Cette progression résulte d'une collaboration réussie avec les co-entreprises et les partenaires dans le cadre de contrats de partage de production.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite et fin ce vendredi des matchs de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, déjà qualifiés, l'Afrique du Sud et l'Ouganda étaient en lutte pour la première place de la poule K. Les Bafana Bafana l'ont remporté en s'imposant 2-0 devant les Cranes ougandais. Match nul d'un but partout entre le Botswana et la Mauritanie. Un résultat qui permet aux Botswanais de se maintenir dans la course à la qualification grâce à leur deuxième place avant leur rencontre de la dernière journée. Toujours ce soir, gros choc entre le pays hôte, le Maroc et le Gabon. Les Panthères y sont presque après la défaite de la République centrafricaine face au Lesotho 1-0. Match de tous les dangers pour le Ghana qui doit absolument s'imposer face à l'Angola pour maintenir son infime chance de qualification. Tout autre résultat éliminerait les Black Stars.
Hier, le Sénégal a battu le Burkina Faso 1-0 au stade du 26 mars de Bamako.
Les Lions de la Teranga reprennent ainsi la tête de la poule A. Seul enjeu dans cette rencontre, Burkinabé et Sénégalais étant déjà qualifiés pour la phase finale. Pour le sélectionneur du Burkina Faso, Brahma Traoré, ses protégés ont perdu un match qui leur tenait à cœur.
Nous avons eu des occasions, nous n'avons pas eu de chance, mais nous venons de démontrer à la face de l'Afrique que l'équipe du Burkina a d'énormes potentialités. Nous avons joué ce match sans 8 titulaires de l'équipe et nous avons démontré qu'on pouvait rivaliser avec l'équipe sénégalaise au grand complet.
Le sélectionneur du Burkina Faso, Brahma Traoré, pour son homologue sénégalais Pape Thiaw, ses poulains ont eu en face une belle équipe burkinabé.
C'était une finale. Et voilà, nous, on a insisté à vouloir prendre les 3 points. Et finalement, voilà, c'est chose faite. Et bravo à mon équipe et bravo au Sénégal de Burkina. On est en face d'une très belle équipe.
Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Toujours hier, 0-0 entre la Guinée équatoriale et l'Algérie, tous deux qualifiés pour la phase finale, 1-1 entre le Bénin et le Nigeria, suffisant pour assurer aux Super Eagles, finalistes à Abidjan, pour arracher leur ticket pour le Maroc. Les Guépards, eux, reprennent la deuxième place de leur poule devant le Rwanda, battu par la Libye 1-0, défaite 3-2 du Congo devant le Soudan du Sud.
Ici en NBA, Utah enfonce Dallas dans le match des mal classés.
Le Jazz a infligé une 4e défaite consécutive au Dallas Mavericks de Luka Doncic 115-113 lors du seul match programmé la nuit dernière. Dernier de la conférence Ouest avant la rencontre, Utah a enfin remporté son premier match de la saison à domicile après 5 revers, notamment grâce à 28,9 rebonds du pivot John Collins. Finaliste NBA au printemps, Dallas s'enfonce au classement dans la concurrentielle conférence Ouest. 5 victoires, 7 défaites et un rang de 12e sur 15.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion, de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les Républicains ont conservé leur majorité à la Chambre des représentants, consolidant ainsi la position de Donald Trump avec la Maison-Blanche et le Sénat. Cette emprise renforce sa capacité à réaliser son programme, l'Amérique d'abord. Quelle réforme importante Donald Trump pourrait accomplir grâce à cette majorité au Congrès? Eric Manirakiza s'est entretenu avec Calvin Dark, analyste américain et directeur associé de RC Communication, un centre de réflexion basé ici à Washington, D.C.
C'est une bonne nouvelle, surtout pour Donald Trump, parce que nous savons que même Donald Trump a dit que les obstacles internes de son propre parti, c'est un obstacle pendant le premier mandat. Et je crois que maintenant, il contrôle tout à Washington. Il y a la solidarité complète pour Donald Trump. Alors, il va avoir ses deux années pour vraiment poursuivre son programme jusqu'à les élections en 2026, les élections législatives.
Quelles sont les principales réformes que Donald Trump pourrait réaliser grâce à sa majorité au Congrès?
Je crois que le focus va être les impôts, parce qu'il veut une loi sur les impôts avec les Trump Tax Cuts, c'est-à-dire les avantages pour les impôts qu'il a donnés pendant son premier mandat, mais à long terme, pas pour 3, 4, 5 ans. Et je crois qu'après ça, le projet de loi sur l'immigration, il va poursuivre ça. Et il va poursuivre tous les projets qu'il ne peut pas avec les démocrates. Par exemple, s'il gagne en 2 ans un contrôle du Sénat, de la Chambre des représentants. Et je crois que, bien que ça ne soit pas ce que les démocrates voulaient pour ces élections, parce qu'il a tout le contrôle à Washington, ça c'est un avantage pour les démocrates. Parce que si les démocrates, par exemple, avec le contrôle dans la Chambre des représentants. Donald Trump peut culpabiliser les démocrates s'ils ne arrivent pas à réussir ces projets. Mais maintenant, il n'y a pas d'opposition. Alors, pour les campagnes, pour les élections législatives, Donald Trump, il est responsable seul pour les échecs ou pour les réussites. Et je crois que ça, c'est vraiment une bonne position pour les prochaines élections pour le Parti démocrate.
Quelle est la marge de manœuvre des démocrates pour bloquer certaines initiatives républicaines?
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques procédures dans le Sénat, mais parce que ce n'est pas 50-50, comme avec Joe Biden, il peut perdre, je crois, 2 ou 3 votes de son propre parti. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses que les démocrates peuvent faire. Mais moi, ce que j'attends, c'est comment ils vont résoudre le budget avant le 20 décembre, c'est-à-dire avec le Congrès qu'on a maintenant. Parce que ça va être la dernière opportunité pour les démocrates de vraiment gagner quelque chose dans la législation. Et je crois que parce que Donald Trump ne veut pas un shutdown du gouvernement avant le 20 janvier, les démocrates ils vont pousser le maximum qu'ils puissent avoir parce qu'ils savent qu'à partir de janvier, il n'y a aucun moyen de vraiment être influent avec Donald Trump parce qu'il n'a pas besoin de leur soutien.
Calvin Dark, analyste américain et directeur associé de RC Communication. Le président élu Donald Trump poursuit ses nominations pour sa future administration, les dernières en date. Matt Gaetz, appelé à devenir ministre de la Justice, Robert Kennedy, au poste de ministre de la Santé, il s'est aussi tourné vers un vieil allié pour diriger la CIA et vers une outsider que certains considèrent comme une perturbatrice potentielle pour superviser les agences de renseignement américaines. Jeff Seldin, correspondant de la VOA pour la Sécurité nationale, nous en dit plus. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Le choix le plus éclatant, l'ancienne députée des États-Unis, Tulsi Gabbard, a été choisie par le président élu Donald Trump pour être directrice du renseignement américain.
Here is the choice that we have.
Voici le choix qui s'offre à nous. Un vote pour Kamala Harris et un vote pour Dick Cheney.
A vote for Dick Cheney and it's a vote for war, more war.
C'est un vote pour la guerre, plus de guerre. Probablement la troisième guerre mondiale et la guerre nucléaire. Un vote pour Donald Trump, c'est un vote pour un homme qui veut mettre fin aux guerres, pas en commencer.
L'ancienne démocrate est devenue une voix forte de la campagne de Trump, ralliant les foules à son programme.
C'est pourquoi je suis fière de me tenir aux côtés du président Trump et c'est pourquoi nous, le peuple, devons voter pour le renvoyer à la Maison Blanche et rendre à l'Amérique sa grandeur.
En annonçant la nomination de Gabbard, Trump a fait l'éloge de son esprit intrépide, affirmant qu'elle apporterait un plus à son poste. Elle a aussi plus de 20 ans d'expérience au sein de la garde nationale de l'armée américaine. Mais elle apporte aussi son lot de controverses. Elle a irrité les législateurs républicains et démocrates avec cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle ses détracteurs affirment qu'elle a repris la propagande russe sur les armes biologiques en Ukraine, financée par les États-Unis, ce qui, selon les services de renseignement américains, n'est pas vrai. Le sénateur républicain Mitt Romney a qualifié les commentaires de Gabbard de mensonges, de trahison, une accusation que Gabbard a rejetée. Elle a aussi été critiquée pour avoir rencontré le président syrien Bachar el-Assad, accusé de crimes de guerre. Mais elle a défendu ce voyage en disant qu'on ne peut pas être sérieux au sujet de la paix si on n'est pas prêt à parler à ses adversaires. Le choix de John Ratcliffe par Trump pour diriger la CIA est plus conventionnel. Ratcliffe a été directeur du renseignement national à la fin du premier mandat de Trump, depuis l'époque où il était membre de la commission du renseignement de la Chambre des représentants.
L'un d'entre vous est-il ici aujourd'hui pour affirmer qu'il y a eu un délit passible de mise en accusation dans cet appel? Dites-le, quelqu'un.
Ratcliffe est un fidèle de Trump et lorsque les législateurs ont initialement forcé Ratcliffe à retirer son nom de la liste des candidats au poste de haut responsable du renseignement en 2019, Trump l'a soutenu.
La presse le traitait, à mon avis, de manière très injuste. C'est un homme exceptionnel.
Ratcliffe a eu une nouvelle chance et a promis aux législateurs qu'il veillerait à ce que les agences de renseignement américains fournissent au pays ce qu'il a décrit comme la vérité sans phare. Il s'est parfois heurté aux législateurs au sujet de la déclassification des renseignements concernant l'ingérence présumée de la Russie dans les élections. Il s'est opposé à l'ingérence de l'Iran, de la Russie et de la Chine.
Il n'y a rien de plus sacré dans notre République que le principe démocratique fondamental, une personne, une voix.
One vote.
Trump fait confiance à un visage familier et une étoile montante pour diriger les efforts des services de renseignement américains au cours des 4 prochaines années.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et de discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA Afrique.
Le projet USAID Sariya Bateau a été lancé à Bamako en présence de plusieurs responsables de la chaîne judiciaire et des associations de lutte contre la corruption. Ce projet d'une durée de 5 ans est doté d'une enveloppe de 15 millions de dollars et vise entre autres à faciliter l'accès des populations à la justice et à la modernisation des tribunaux. Reportage de notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko.
Dans la suite logique du projet Mali Justice Project qui a duré 7 ans, l'USAID en lançant Sariya Bateau, qui veut dire respect de l'état de droit, compte travailler avec les acteurs de la justice et des associations pour faciliter l'accès des populations à la justice. Jean Lavoie, directeur USAID, Sariya Bateau.
Nous allons travailler à nouveau avec de très nombreuses organisations de la société civile à l'échelle du pays, pour promouvoir finalement le droit, mais également de permettre aux organisations d'accompagner les justiciables dans des régions malheureusement souvent peu accessibles aux tribunaux. Donc nous avons développé un projet de subvention qui sera très prochainement lancé et qui permettra aux organisations et à leurs parajuristes de fournir des conseils légaux aux populations.
Partenaire de l'État malien, les États-Unis, à travers l'USAID, en finançant ce projet, entend contribuer à la lutte contre la corruption et à la promotion de plus de transparence dans la gestion publique. Ogale Odo, directeur de l'USAID au Mali.
Nous appuyons les organisations de lutte contre la corruption, contribuant ainsi à la transparence et à la bonne gouvernance. Depuis 1961, les États-Unis ont investi dans la protection des droits de l'homme au Mali avec plus de 35 millions de dollars depuis 2015.
Le renforcement institutionnel du ministère de la Justice, faciliter l'accès des populations à la justice, sont deux des quatre composants du projet, qui sont très appréciés par le ministre de la Justice, Mamadou Kassogi.
Vous qui avez, sous le leadership de Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, su impulser la dynamique qui a accompagné les différents arrangements et accords ayant abouti à la signature de la convention de financement de cet important projet, dont l'enveloppe prévisionnelle est estimée à 15 millions de dollars, soit environ 9 milliards de francs CFA sur 5 ans, de 2024 à 2029. Par ma voix, l'ensemble de la famille judiciaire vous exprime sa profonde gratitude et vous adresse ses sincères remerciements, et à travers vous, au gouvernement et au peuple américain, pour le soutien manifesté à l'endroit de la justice de notre pays.
Conformément aux besoins exprimés par le ministère de la Justice, USAID Saria Bato compte accompagner le département sur plusieurs chantiers, notamment celui de la formation des magistrats sur le code pénal et le code de procédure pénale qui ont été adoptés le 31 octobre dernier par le Conseil national de transition. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Des dizaines d'événements autour du thème de l'énergie se tiennent aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan, dans le cadre de la COP29. Pour une analyse, Alexandrine Ollognon a joint à Bakou Jean-Jacques Bambouta, coordonnateur de l'unité de gestion de l'écosystème des tourbières, point focal des négociations sur l'environnement.
Ce que les pays en développement sont en train de réclamer est très simple. Vous avez d'un côté des pays qui sont responsables de la grande quantité d'émissions qui sont en train de pratiquement de détruire l'humanité, et vous avez de l'autre côté des pays en développement qui disposent des écosystèmes que l'on pourra qualifier de véritables solutions basées sur la nature et qui sont en train de souffrir parce que, bon voilà, les pays développés refusent carrément de pouvoir effectuer de meilleurs pas qui pourront faire en sorte que, bon voilà, le vécu de communautés ainsi que de peuples autochtones qui contribuent à l'atténuation du climat mondial soit amélioré. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important que le financement qui sera disponibilisé puisse davantage aller vers les communautés. Et pour cela, il y a un certain nombre de préalables. C'est pour ça que nous sommes en train de discuter, pour que nos partenaires comprennent qu'il est important qu'ils puissent disposer un peu plus de moyens liés à la protection des solutions basées sur la nature.
L'Afrique, on l'a bien compris, réclame plus de financement, mais que proposent les délégations du continent qui prennent part à cette conférence pour amoindrir l'impact du changement climatique?
Les pays en développement proposent déjà un certain nombre de solutions qui peuvent s'articuler à deux niveaux. Vous avez déjà les contributions nationales qui sont un véritable grand pas en termes de tout ce que les États en développement sont en train d'apporter pour pouvoir atténuer le climat mondial. Et de l'autre côté, le deuxième point, et c'est le plus important, concerne en fait toutes les solutions basées sur la nature que tous ces pays apportent, j'allais dire, à l'ensemble de l'humanité afin de pouvoir atténuer le climat. Pour vous donner un exemple, vous avez un pays comme la République démocratique du Congo qui dispose à elle seule d'environ 155 millions d'hectares de forêt, de tous les minerais stratégiques qui sont capables de pouvoir actionner toute la transition écologique derrière laquelle nous sommes en train de courir, ainsi que de toutes les tourbières qui sont en ce moment en train de stocker pratiquement plus de 3 ans d'émissions mondiales. Donc vous voyez qu'il est quand même normal que tous ces pays puissent réclamer que les efforts qui sont en train d'apporter en termes d'atténuation du climat mondial soient reconnus. Et il ne s'agit pas de l'aide au développement. Il faut que nous puissions faire la différence entre la rétribution qui doit devenir au pays grâce à l'importance de leur écosystème en atténuation du climat mondial et de l'autre côté de l'aide au développement. Et donc, merci. C'est là que se situe le grand problème. C'est qu'il faut qu'on reconnaisse l'importance des écosystèmes des pays africains, j'allais dire les pays africains, mais aussi on peut prendre tous les pays en développement.
Jean-Claude, Jean-Jacques Bambouta, point focal des négociations sur l'environnement. C'est la fin de cette édition de Le Monde aujourd'hui.